Les Carnets du Monde sur Europe 1, Sophie Larmoyer.
Pendant les 8 prochains jours, l'Allemagne va commémorer les 30 ans de la chute du mur de Berlin, un événement dont on se fait aussi l'écho bien sûr dans les carnets. Les élections dans l'Est du pays cet automne ont déjà donné beaucoup l'occasion de parler des clivages qui existent encore entre les deux Allemagnes. Et nous, on a eu envie de donner la parole à un artiste, un chanteur. Enfin, c'est surtout l'idée d'Hélène Kohl, pour être honnête au début. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Ce chanteur était un opposant en RDA que le régime a même contraint à l'exil tellement il avait peur de ses textes. Il s'appelle Wolf Biermann et son autobiographie en français est sortie il y a quelques semaines. Vous avez pu le rencontrer, Wolf Biermann.
Oui, effectivement, son livre s'appelle « Ma vie de l'autre côté du mur » aux éditions Kalman-Lévy. Et c'est à double sens parce que Wolf Biermann, qui a aujourd'hui un petit peu plus de 80 ans, a vécu autant à l'Est qu'à l'Ouest. Il a été privé de ses droits civiques lors d'une tournée en RFA, donc quand il était à l'Ouest, en 1976. Et il n'a jamais pu remettre les pieds en RDA, où il avait toute sa vie, où il avait choisi même de vivre par conviction. Wolf Biermann, c'est un communiste, né dans une famille de militants. Son père a même été persécuté par les nazis et il est mort à Auschwitz. Aujourd'hui, il aime dire qu'il est le poète germano-allemand, avec son franc-parler, ses textes toujours provocants. Écoutez comme il se qualifie lui-même.
Un type insolent, intelligent et malicieux, comme un gavroche.
C'est moi. Je suis le petit gentil gavroche allemand.
Alors, ouais, physiquement, c'est plutôt un Brassens. Moustache, guitare et des poèmes engagés comme celui-ci contre le militarisme.
Soldat, soldat in grauer Norm, soldat, soldat in Uniform, soldat, soldat, ihr seid so viel, soldat, soldat, das ist kein Spiel.
Alors, on imagine bien, Hélène, que cette chanson était interdite en RDA.
Oui, à l'index, comme toutes les autres d'ailleurs. Mmh. Dans sa bio, il raconte que des gens ont été emprisonnés pour avoir écouté ses disques, persécutés par la police politique pour avoir diffusé ses poèmes, ou juste écrit sur les murs quelques-uns de ses vers.
Lui-même était sous surveillance, hein.
Évidemment. Après la réunification, il a pu voir le dossier que la Stasi avait constitué sur lui, 15 000 pages.
Wow.
Et il a eu jusqu'à 70 agents sur ses talons. En plus, il habitait juste en face de l'ambassade de la RFA, de l'ambassade de l'Allemagne de l'Ouest à Berlin-Est, un bâtiment que la Stasi avait mis sur écoute.
Dans chaque pièce, la moindre cave, le moindre double WC, jusqu'à la sous-porte, on avait installé des micros. Cela formait un amas de câbles de téléphone de plus de 30 cm de diamètre qui passaient sous la rue et aboutissaient dans mon immeuble. La Stasi avait besoin de tous les appartements possibles pour y installer ses agents qui écoutaient.
Et ça a inspiré un texte à ce Gavroche, une de ses ballades les plus subversives où il se moque des agents de la Stasi qui enregistrent tout jusqu'au moindre de ses paix, chante-t-il, et qui doivent le suivre par tous les temps.
Menschlich fühle ich mich verbunden mit den armen Stasi-Hunden, die bei Schnee und Regengüssen mühsam auf mich achten müssen, die ein Mikrofon einbauten.
Et aujourd'hui encore, c'est l'un de ces anciens chiens de garde, un agent de la Stasi qui occupe son appartement.
Wow.
Récemment, il y est allé avec la plus jeune de ses filles qui est encore adolescente.
Elle me dit « Je veux aller dans ton appartement ». Je réponds « C'est pas possible, il y a l'espion dedans ». Elle est allée sonner. J'étais mal à l'aise. Car je ne veux pas me faire contaminer au contact de cette racaille. Mais je ne voulais pas non plus sermonner ma fille comme un vieux grand-père qui ronchonne. C'était très étrange.
À l'Ouest, Hélène, il a continué à écrire, à chanter.
Oui, peut-être que quelques auditeurs se souviennent de leur manuel d'allemand dans les années 80-90. Alors, on étudiait les poèmes de Biermann, même si on le connaissait plutôt comme le beau-père de Nina Hagen. Hein.
Wow.
Alors, à cette époque, en fait, voilà, exactement, c'est lui. À cette époque, il ne va pas très bien. Il a le mal du pays, ses amis et ses ennemis lui manquent et il n'arrive pas à goûter à sa nouvelle liberté.
Richtig frei.
On ne peut se sentir libre réellement que dans les dictatures. Car quand on vit dans la liberté, on ne se sent pas libre, on est libre. La fleur de la liberté est toujours une fleur de cachot. Elle ne pousse que dans les cellules. Et quand la liberté est là, on ne la voit plus comme une fleur, mais comme un radis.
Radicien.
C'est très beau, ça. Ça serait un sujet de philo, pour le coup. Et puis, Hélène, le mur est tombé.
Wolf Biermann dit que c'est le jour le plus heureux de sa vie, évidemment, parce qu'il ne pensait jamais voir cela.
Ouais.
Mais il dit aussi que c'était le jour le plus malheureux de sa vie. Écoutez avec quelle ironie il raconte sa soirée du 9 novembre à Hambourg.
Ils sont en train de faire la révolution sans moi, alors que je suis l'homme le plus important dans cette révolution, avec mes chansons révolutionnaires. Parce que c'est moi qui ai pendant des décennies alimenté le feu sacré chez ces gens. C'est grâce à moi qu'ils ont eu cette force de résister. C'est ma révolution. Je ne joue aucun rôle. Ils n'ont pas besoin de moi. Je suis là, devant ma télé. Je suis un nobody.
En réalité, les Allemands de l'Est ne l'ont pas oublié et dès le 1er décembre 89, il est invité à se produire à Leipzig au Palais des Congrès. 3 heures de concert et de lecture politique devant une foule gigantesque entassée dans les gradins.
Alors, c'est intéressant de savoir, Hélène, aujourd'hui, quel est son regard sur la réunification, sur ce qu'elle a produit.
Alors, il est très énervé par les discours politiques de récupération de cette révolution de 89 et d'une manière générale par l'attitude des Allemands de l'Est qui reprochent à la RFA de les avoir colonisés ou d'avoir fait une OPA sur leur pays.
Les Polonais, les Hongrois, les Tchèques auraient été ravis d'avoir un frère aussi riche et avec une telle mauvaise conscience. Les Allemands de l'Est doivent énormément aux Allemands de l'Ouest, tellement que cela en devient trop et qu'ils ne peuvent plus le supporter.
Wolf Biermann voit un mur se reformer entre les uns et les autres. Il constate par exemple combien les Allemands de l'Ouest sont extrêmement tournés vers l'extérieur, polyglottes, voyageurs, alors que les Allemands de l'Est revendiquent et entretiennent leur identité allemande.
Enfin, nous sommes de vrais Allemands. Pas des demi-russes. Pas une colonie russe, l'Allemagne. Nous sommes Allemands. Pas surprenant qu'autant de gens à l'Est votent AfD et soient nationalistes.
Avec philosophie, il dit que l'essor de l'extrême droite est sans doute le prix à payer, Sophie, pour ce miracle de 89.
Quand tout se passe si facilement, quand une révolution coûte si peu, que tout est tout à coup tellement confortable, un vrai cadeau, sans une goutte de sang, sans guerre civile, sans déclencher une troisième guerre mondiale. Alors l'addition arrive plus tard. Quelqu'un doit payer.
L'addition à payer, ce serait donc aujourd'hui. Il est assez pessimiste, dis donc, sur l'évolution de son pays.
Oui, il dit que c'est le seul moyen de ne pas être trop déçu dans la vie. Mais c'est un peu une posture, je pense. Wolf Biermann reste avant tout un bon vivant, drôle, tendre, attentif, une conscience de l'Allemagne d'aujourd'hui. Son livre n'est pas facile à lire, il faut bien le reconnaître. Hein. Il faut bien savoir l'histoire de l'Allemagne et l'histoire de la RDA. Mais c'est un témoignage clé de la part d'un artiste engagé qui a vécu des deux côtés du mur.
Ma vie de l'autre côté du mur, c'est aux éditions Kalman Levy. C'est sorti il y a quelques semaines. Merci beaucoup, Hélène, d'avoir permis cette rencontre avec Wolf Biermann, personnage de cette Allemagne fracturée puis réunifiée. Au passage, j'encourage nos auditeurs à écouter un programme original auquel j'ai eu le plaisir de participer. Il s'agit de grands récits de la guerre froide à partir des archives d'Europe 1. Elles sont extrêmement riches, notamment sur cette fracture Est-Ouest en Allemagne. Ces récits seront diffusés toute cette semaine dans le grand journal du soir de Nathalie Lévy, un épisode par jour de lundi à vendredi. On compte sur vous. Voilà, on termine en musique, forcément. Et on va tous reconnaître cette chanson empruntée à Boris Vian, écrite en 1954 et qui est devenue avec le temps un hymne pacifiste. C'est le Déserteur. Merci Hélène.
À bientôt Sophie.
Messieurs, le président, ob Sie sich wohl bequemen, ob Sie die Zeit sich nehmen und lesen meinen Brief. Mich hat's erwischt, ich hab die Musterungspapiere. Ich muss in Krieg marschieren, schon Mittwoch geht es ab. Monsieur, ich geh nicht hin, ich will nicht diese Merde. Ich leb nicht auf der Erde, damit ich Mörder bin. Was alle Welt längst weiß, sie sollen es endlich wissen. Monsieur, sie sind beschissen, die Kriege sind ein Scheiß. Von klein auf sah ich das, sah Väter, die krepieren, sah Brüder losmarschieren, sah Kinder tränennass. der Mütter Schmerz und Wut, sah andere fröhlich brasen, Hurra und hoch die Tassen, Ahoi im Meer von Blut. Sah gute Kerz im Knast, gebrochen und verbogen, um ihre Frauen betrogen, um all ihr bisschen Glück. Bevor die Hähne krähen, verramme ich die Türen, ich will mein Leben spüren und mach mich auf den Weg. Und schnorr mir meinen Fraß, so komm ich durch ganz France, Bretagne bis Provence, und allen erzähl ich das.
Ah, c'est toujours rigolo hein, d'écouter une chanson qu'on connaît, mais dans une autre langue, Le Déserteur de Boris Vian par Wolf Biermann. À suivre, on va découvrir une ville kurde de Turquie, bientôt engloutie par les eaux d'un barrage et dont le cimetière a été déménagé.
Europe 1, les carnets du monde.
Jusqu'à 14h, nous sommes avec Sophie Larmoyer. Hier, samedi 2 novembre, c'était le jour des morts, le jour où les catholiques rendent hommage à leurs disparus. Et dans les carnets, c'est dans le cimetière d'une ville turque que l'on vous emmène maintenant.
On va vous raconter l'histoire de cette ville, Hasankeyf, dans le sud-est de la Turquie, c'est au beau milieu des territoires kurdes. Toute la ville va être recouverte par les eaux du Tigre à cause d'un barrage construit en amont pour le bénéfice de tous, assure le gouvernement évidemment. Tout le monde aura ainsi de l'électricité, mais le fleuve va aussi engloutir un patrimoine inestimable, des témoignages de vie qui remontent au néolithique. Certains ne peuvent pas s'empêcher de penser que ça ne dérange pas trop Ankara de noyer des souvenirs du patrimoine kurde. En tout cas, il faut tout déménager, les maisons, les restaurants, les édifices religieux, et pas question de laisser derrière les disparus. Alors pendant quelques jours, une dizaine d'ouvriers s'est attelée à la lourde tâche d'exhumer les dépouilles pour les transporter dans un nouveau cimetière protégé des eaux. La correspondante d'Europe 1, Cerise Sudry-Ledu, était là, voici son reportage.
C'est cassé.
Farouk Aydin transpire à grosses gouttes. Il finit par lâcher sa pelle et déblaye la terre avec ses doigts. Dans la culture musulmane, il n'y a pas de cercueil. Alors juste sous ses mains se trouve la tombe d'un enfant. Les os sont si petits qu'il a du mal à les distinguer des cailloux.
Il se casse dès que je les touche.
Avec ses ouvriers, Farouk n'a que quelques jours pour extraire une soixantaine de dépouilles du cimetière, les emmailloter et les transporter un peu plus haut, à un petit kilomètre de là, dans un nouveau lieu.
Bien sûr qu'il pleure. Il y a différents types de morts ici, alors différents types de chagrins. Mais quand leur famille extrait leur corps, ils revivent le moment de l'enterrement.
Il faut dire que malgré la délicatesse des ouvriers, le procédé, avec ses airs de simple formalité administrative, est assez violent psychologiquement. Cahier à la main, un homme photographie chacune des familles devant les pierres tombales de leurs proches, enregistre leur carte d'identité et marque à la bombe de peinture la stèle correspondante avec un numéro. Puis, une pelleteuse rentre en action pour creuser jusqu'aux dalles. Toute la ville défile et à chaque fois, à les voir observer les travaux en silence, on devine l'émotion qui les submerge.
C'est grand-mère ?
Non, c'est maman. Elle était si belle.
Moi, je crois que c'est la femme de mon oncle.
Adire est venue avec ses sœurs pour récupérer les corps de plusieurs membres de sa famille. Mais avec le temps, les trois femmes ne savent plus trop où se trouvent toutes les tombes et elles naviguent entre les herbes folles.
Même les cadavres, on ne les laisse pas en paix sous la terre. Il y a ma sœur qui est morte quand elle avait 13 ans. Il y a aussi un proche qu'on a enterré il y a à peine 3 ans. Il y a aussi ma mère, morte il y a 24 ans, et mon père, mort il y a 8 ou 9 ans. On doit tous les reprendre. Je ne souhaite à personne de vivre ça. Qu'est-ce que je peux dire ? On n'a rien à voir avec le barrage. On ne vit même plus ici. On ne demande aucun argent. Mais pourquoi touche-t-on à nos cadavres ?
Les corps sont transportés dans la nouvelle cité, construite pour l'occasion. Elle est juste en face de la vieille ville, qui va, elle, disparaître sous les eaux. Et à Hasankeyf, qui est parsemée de milliers d'habitations troglodytes, ce sont des trésors architecturaux qui vont être engloutis, dont certains datent de l'époque néolithique. Pour Ridvan Ayan, qui a déjà fait un an et demi de prison pour avoir manifesté, il est hors de question d'arrêter de protester, car ces murs, ce sont aussi ses souvenirs.
J'ai vécu ici jusqu'à mes 6 ans. Je devais rapporter de l'eau à la maison et j'allais au moulin avec mon père 3 ou 4 fois par jour. Il était pêcheur sur le Tigre. C'est comme ça qu'on avait de l'argent pour la famille. Et l'hiver, il fabriquait des tapis dans la grotte dans laquelle on vivait. La tombe de mon grand-père est encore là-bas. Les gouvernements successifs n'ont jamais aimé la communauté kurde. Faire disparaître la culture d'Hasan Keif, c'est aussi une façon de faire disparaître mes souvenirs d'enfance.
À 2 pas de la seule rue commerçante de la ville, Firat Argo tient à bout de bras un petit hôtel d'une 15aine de chambres au bord de l'eau. Il sera l'un des premiers impactés, il le sait, mais pour le moment, il se refuse à déménager.
On est ici depuis 5 générations. Je suis né, j'ai grandi ici, j'ai ouvert cet hôtel il y a 20 ans. Je resterai là jusqu'à ce que l'eau arrive. C'est comme dans un cauchemar, comme si on était dans le coma. On peut voir, sentir, mais on ne peut rien faire. Par exemple, on m'a donné 50 000 liras pour ma maison, mais la nouvelle coûte 140 000 liras. Ils pourront nous donner tout l'argent qu'ils voudront, ça ne remplacera pas ce qu'on a vécu ces dernières années.
Firat a encore l'eau courante et l'électricité, mais depuis la rentrée, le minibus qui emmenait son plus jeune fils à l'école ne passe plus par la vieille ville. Alors, il fait cours à la maison pour lui apprendre à écrire.
On est comme un condamné à mort, un condamné qui ne sait pas quand il sera pendu.
Firat ne regarde pas vers le cimetière. Il y a 2 jours, il a dû vider les tombes de ses parents, mais il ne veut pas en parler. C'est dur, dit-il pudiquement. Europe 1, Sori Sudreludu à Hasan Keif.
Retour en studio à Europe 1 et depuis Istanbul où elle est retournée, Sori Sudreludu est en ligne avec nous. Bonjour Sori.
Bonjour Sophie.
À terme, on a compris que la ville disparaîtra sous un lac artificiel. Est-ce que ça se voit déjà par endroit?
Alors non, la construction du barrage n'est déterminée qu'au début de l'été. Et donc comme Hasan Keif se situe à 100 km et que les eaux montent très progressivement, la ville n'est pas encore touchée. Mais près du barrage, en revanche, on ne peut déjà plus accéder à certains villages et on voit des pancartes sur lesquelles sont décrites « route coupée du fait de la montée des eaux ».
Pour quand est prévue la submersion de la vieille ville d'Hasan Keif?
Alors les autorités sont très avares en informations précises. Elles ont demandé à tous les habitants d'avoir déménagé pour ce mois-ci avant de reporter l'échéance. Mais en se promenant dans la ville, on comprend ce qui va se passer concrètement. Les terrasses des cafés qui surplombent le Tigre vont toutes être englouties. Sur certains murs, le niveau des eaux a été peint. Et là où se trouve la citadelle, le cœur historique de la ville, des milliers d'immenses pierres blanches ont été déversées. Et en fait, elle doit servir de promontoire à un futur port, car le gouvernement veut faire de ce lieu un hotspot de tourisme nautique avec bateaux, plongées et même téléphériques.
On entendait dans votre reportage que certains habitants résistent.
Oui, hein, bien sûr, il y a souvent eu des manifestations, des sit-ins, des campements. Mais ces derniers temps, la police intervient violemment. Et ce qui est frappant ici, c'est le mélange de résignation des habitants et d'incrédulité. Pour les plus anciens, ça fait déjà 50 ans qu'on leur dit qu'un barrage va être un jour construit. Et en fait, les gens ne croient pas vraiment que l'eau arrivera un jour.
Pourtant, les autorités relogent les habitants.
Alors officiellement, oui. Mais en fait, presque toutes les maisons ont été rachetées à des prix qui ne permettent pas de se payer les maisons flambant neuves qui sont proposées. Ouais. Et puis, beaucoup vont perdre leur terrain et pour ça, ils ne sont pas indemnisés.
Qu'en est-il des trésors architecturaux? Les archéologues ne sont pas tous vent debout, là, dans le coin?
Alors, pour faire mine de sauvegarder le patrimoine historique, le gouvernement a fait déplacer des bâtiments entiers. Il faut s'imaginer d'énormes véhicules transportant une mosquée ou un mausolée. Et les objets qui sont retrouvés lors des différentes fouilles sont exposés dans un musée qui vient d'ouvrir ses portes. Mais les militants n'entendent pas du tout de cette oreille, car des milliers d'habitations troglodytes sur lesquelles existent des gravures ou des inscriptions vont être englouties. Ridvan Ayan me disait par exemple qu'on avait à peine découvert 20% des trésors de la ville. Et les défenseurs d'Hasan Keif voudraient que le site soit classé par l'UNESCO, ce qu'il protégerait. Mais pour l'instant, pas de nouvelles.
Voilà, et l'eau se rapproche. Chaque jour qui passe, ça semble évidemment inéluctable maintenant. Merci Sori d'avoir attiré nos regards et nos oreilles sur le sort de cette ville kurde de Turquie, Hasan Keif. À très bientôt dans les carnets.
Au revoir.
Europe 1, les carnets du monde.
Il est 13h25 et jusqu'à 14h, vous écoutez Sophie Larmoyer. Comme tous les dimanches, la littérature étrangère est au menu des Carnets du Monde. Et comme toujours, c'est avec Nicolas Caro que nous voyageons.
Bonjour Nicolas.
Bonjour Sophie.
Alors on fait escale aux États-Unis avec vous cette semaine dans le sud des États-Unis. avec la nouvelle traduction d'un roman culte.
Et oui, même si j'avoue que je ne le connaissais pas.
Ça commence bien.
Mais en parlant un peu autour de moi, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était un roman culte pour beaucoup de gens. Il a été publié en 1986, 20 millions d'exemplaires vendus.
Ouais, quand même.
Aux États-Unis, il est régulièrement classé dans les tops de meilleurs romans. Il y a eu une adaptation en film avec Nick Nolte et Barbara Streisand quand même. Ça s'appelle Le Prince des Marais, signé Pat Conroy chez Albin Michel.
Qu'est-ce que ça raconte alors ?
Alors, au début, dans le prologue, c'est charmant. On est au paradis, c'est-à-dire sur Melrose Island, une petite île dans les marais de Caroline du Sud. C'est Tom qui raconte. Tom Wingo, il vit là avec son frère Luke et sa sœur Savannah. Il passe son temps à courir dans la nature, à pêcher, à chasser aussi. Un jour même, il tue un aigle extrêmement rare. Et voilà comment ça se passe. Je lis un extrait. Son père n'est vraiment pas content. « Après m'avoir battu pour avoir enfreint la loi et parce que je venais de tirer sur le dernier aigle du comté, mon père m'obligea à faire un feu, à plumer l'oiseau, à le rôtir, puis à le manger malgré les larmes qui roulaient sur mes joues. Ensuite, il me livra au shérif Benson qui me garda enfermé pendant plus d'une heure dans une cellule. Avec les plumes, mon père confectionna une vague coiffe d'Indien que je dus porter à l'école. Il croyait à l'expiation des péchés. »
Eh ben, ça ne rigole pas.
Et non, pas quand on respecte pas la nature, mais sinon Tom est fasciné par son père, pêcheur de crevettes. C'est ça ce qu'on appelle la littérature du Sud aux États-Unis. La nature y est magnifiée. C'est l'héritage de Mark Twain, de Faulkner. Il y a vraiment une littérature spécifique du Sud qui a d'autres caractéristiques encore, comme nous l'explique l'éditeur Francis Geffard.
La littérature du Sud, déjà, c'est une littérature où plane l'ombre de la question raciale. Et c'est vrai que dans ce roman, sans que ça constitue la matière principale, l'auteur aborde cette question, notamment à travers la jeunesse des trois enfants de cette famille. Ce Sud, marqué par une tradition agricole et presque un peu chevaleresque sur le plan des mœurs, qui est confronté à un Nord industrialisé et sans âme.
Que se passe-t-il ensuite, Nicolas ?
Alors, tout le monde grandit et un jour, Tom reçoit un coup de fil. Sa sœur, Savannah, a encore essayé de se suicider. Encore parce que ce n'est pas la première fois. Tom se rend alors à New York. Il déteste les villes du Nord, mais il y va et il rencontre le docteur Lovenstein, la psychiatre de sa sœur. Il commence à parler avec elle, à raconter l'histoire familiale pour essayer de sauver sa sœur, essayer d'identifier avec la psychiatre ce qui bloque chez elle. Mais ça, ça veut dire révéler une terrible tragédie qui hante la famille, un secret.
Moi qui croyais que c'était le paradis.
C'est ce que je croyais aussi, mais non. Ouais. Et c'est ce qu'on découvre le long des 750 pages du roman qui se lisent toutes seules, tellement l'écriture est limpide. C'est même drôle parfois, très drôle, l'histoire captivante. Alors aujourd'hui, on connaît les romans qui parlent de traumatismes d'enfance, il y en a plein, mais à l'époque, c'était une innovation littéraire.
C'est aussi un livre qui a certainement été l'un des premiers romans à aborder la question de la famille, du traumatisme familial. Ça n'est pas un hasard si l'un des personnages principaux, le docteur Lovenstein, et psychiatre. C'était l'un des premiers romans à aborder de front cette question finalement de la résilience qui est devenue une question très, très importante aujourd'hui. La question du traumatisme de l'enfance, du refoulement. Sur ce plan-là, c'est vrai que c'est un livre qui a marqué les esprits et qui était relativement en avance sur son temps.
Nicolas, pourquoi l'a-t-on retraduit ?
Parce que la traduction avait vieilli. Ça a été d'ailleurs un énorme travail. 750 pages quand même, c'est une fresque gigantesque.
Ouais.
Mais ça valait le coup, ça permet de le remettre au goût du jour et de convertir de nouveaux lecteurs à ce roman complètement dingue.
Je vais m'y mettre, je crois. Le Prince des Marais de Pat Conroy chez Albin Michel et la fameuse traduction nouvelle est de
Françoise Cartano.
Merci beaucoup Nicolas et à tout à l'heure. Une heure
Sophie.
De littérature sous toutes ses formes à 14h avec la voix et livres. À suivre, le Liban en pleine effervescence révolutionnaire et les femmes en première ligne.
Europe 1, les carnets du monde.
Il est 13h33 et c'est au Liban qu'on va maintenant, Sophie Larmoyer. Un peu plus de deux semaines déjà de mobilisation de la rue pour réclamer des changements profonds.
La démission du Premier ministre libanais cette semaine n'a pas suffi à éteindre la contestation, avec des scènes de mobilisation populaire et d'unité très impressionnantes. Et ce qui est remarquable aussi, c'est que les femmes sont en première ligne dans les cortèges, sur les barrages, des femmes de tous milieux, de tous âges. Bonjour Nicolas Feldman.
Bonjour Sophie, bonjour à tous.
Vous êtes à Beyrouth et cette présence très forte des Libanaises, vous l'avez constatée.
Oui, et je vous propose de commencer par cette ambiance de fête. C'était le 23 octobre sur la place des Martyrs à Beyrouth. Un couple venait de se marier ici, sur ce lieu où se concentrent les manifestations. Et elle, dans sa robe blanche, eh bien ce n'est pas n'importe qui. Elle s'appelle Malak Alaiwe-Hers. C'est une jeune femme devenue un peu malgré elle, l'une des icônes de cette révolution libanaise, par un geste qui a donné le coup d'envoi de ce soulèvement. Un coup de pied envoyé dans les parties génitales d'un garde du corps en armes. Et depuis, eh bien Sophie, c'est tout un système qui vacille.
Ouais, cette image, elle a été beaucoup reprise sur les réseaux sociaux et même détournée. Et donc, Nicolas, vous nous emmenez à Beyrouth, au cœur de cette révolution, en première ligne avec les femmes. On vous suit.
Nous sommes ici sur un grand carrefour. Une large autoroute s'enfonce vers la montagne. Elle mène à Damas, en Syrie, à une centaine de kilomètres plus à l'est. C'est cet axe stratégique que les manifestants essaient aujourd'hui de bloquer. Sur le goudron, une vingtaine de femmes sont en première ligne, assises au pied des soldats. Rida reprend avec les autres ses chants à la gloire de l'armée.
On est venu pour fermer la rue, mais l'armée est arrivée et l'a réouverte. Comme vous voyez, on est beaucoup ici. On ne parle pas de religion. La plupart d'entre nous, nous sommes des mères. On a vu la souffrance de nos parents qui ont connu la guerre civile. Pour eux, c'est fini. Leur vie est derrière eux. Alors on se tourne vers nos enfants. On veut qu'ils aient un meilleur avenir. Le confessionnalisme a échoué au Liban. On n'en veut plus. On veut des partis politiques débarrassés des personnes corrompues. Un État avec une justice indépendante, avec des nouvelles règles. On veut rebâtir tout le système.
Être déterminé et le poing levé face aux soldats, Nour chante ce mot révolution qui remue le pays depuis 15 jours.
Je crois que c'est simplement que ces soldats-là, ce sont des citoyens qui souffrent comme nous. Nous savons que c'est votre situation qui ne vous laisse pas s'asseoir avec nous, mais on sent qu'on est tous ensemble et ils sentent ça. Je crois que ça, c'est une victoire. Actuellement, on a vu que l'armée a arrêté de forcer les choses. Lorsque les femmes sont venues faire une barrière, ils se sont reculés pour laisser les gens leur parler en tant que mère ou future mère qui peut faire tomber tous les mécanismes de défense qu'ils ont.
Ce sont des manifestations depuis le 17 octobre contre une classe politique jugée corrompue, contre un système confessionnel. Il y a d'autres demandes que vous faites ici ?
On peut parler d'une grande liste, mais particulièrement, c'est les droits civils, tous les droits civils. Au Liban, on ne peut pas avoir un mariage civil dans les territoires libanais. On doit aller en Chypre ou bien dans quelques autres pays. C'est qu'un mariage religieux. Et lorsque je me suis mariée, on a dû le faire à cause de la pression parentale. Et il y a des textes qui me laissaient sentir une amertume d'être inférieure. Je me suis sentie très humiliée en fait. Alors ça doit être une autre lutte principale. On va déconstruire le confessionnalisme et puis commencer à établir des lois d'état civil qui peuvent vraiment donner de l'égalité et de la sécurité et humaniser les lois.
Direction à présent, la place des Martyrs. C'est là, au centre de Beyrouth, que bat le cœur de ce soulèvement libanais. Chaque jour, des milliers de personnes s'y rassemblent avec pour seule bannière le blanc et le rouge du drapeau national. Farah, 20 ans, porte un keffieh, symbole de la résistance palestinienne. Et ici aussi, sous cette tente, pour ce groupe de femmes, il est question de résistance. Une pancarte en arabe accueille les visiteurs. Notre richesse, c'est notre corps. Demain est à nous.
Au Liban, nous avons ce système confessionnel. Tout ce qui est lié au statut personnel, le mariage, ma relation avec l'État, tout est régi par votre religion dans un système patriarcal. Par exemple, en tant que femme, tous mes documents sont placés sous l'autorité de mon père. Si je me marie, ça passe aux mains de mon mari. Et si je divorce, ça revient à mon père. Quand on parle de ces sujets ici, avec les gens, ils nous disent « Ah, vous vous battez pour le droit de garde des enfants pour les mères. » Oui, ça c'est important. Vous voyez, on leur donne des exemples concrets et après, ils sont plus réceptifs.
Et pour engager la conversation, rien de mieux qu'une averse. Une sexagénaire au brushing soigné vient s'abriter sous la tente.
Excusez-moi, qu'est-ce qui se passe ici ?
Ah, on est des activistes féministes.
Et là, par exemple, dans cette révolution, c'est quoi pour vous le plus important ?
Et il y a plein de choses, bien sûr. Il y a les sujets dont on parle tout le temps et qui n'avancent pas, comme le droit pour une femme de donner sa nationalité à son enfant. Et puis, il y a l'avortement. Nous, on dit que ce n'est pas un acte criminel. Et on sensibilise les gens sur le harcèlement, sur les viols en général et les viols conjugaux.
Là, il y a deux générations. Il y a cette femme qui vient d'arriver.
Vous partagez la même vision du combat féministe ?
Oui, oui, tout à fait. Mais à mon âge, je vais être peut-être plus engagée sur l'avortement ou le viol.
On est d'accord. La nouvelle génération, dont je suis fière en tant qu'ancienne régénération, je suis très heureuse de voir la femme libanaise investir. Pendant des années, on croyait que la femme libanaise s'occupait seulement de son paraître et non de sa psychologie ni de son intellect. Or, il s'est avéré le contraire. Quand j'ai vu le peuple sans qu'il y ait des confessions, et des femmes surtout, je me suis dit, je descends. C'est pas possible, c'est là le moment où jamais j'ai espéré. Ça fait plaisir. Voilà, c'est ça. J'ai senti un bonheur, une joie que ça va changer. Beaucoup de possibilités et le Liban va changer.
Voilà de belles rencontres sur la place des Martyrs à Beyrouth ou sur les barrages avec des Libanaises engagées. Nicolas, elles sont en grand nombre dans les cortèges pour demander que quoi change. Toutes parlent du carcan confessionnel au Liban.
Oui, d'abord, eh bien, pour plus d'égalité entre les hommes et les femmes. En fait, le Liban compte 18 confessions et c'est sur la base de ces communautés religieuses eh bien, que s'organise la vie politique, les sièges du Parlement, les principales fonctions à la tête de l'État. Alors, ce modèle paraît équitable, mais en fait, eh bien, il fige toute évolution et rend difficile l'entrée des femmes en politique. Au Parlement, par exemple, elles n'occupent que 6 sièges sur 128.
Autre point, on a l'image des Libanaises émancipées, de femmes coquettes qui font la fête, alors qu'elles affrontent en fait un patriarcat qui est omniprésent.
Oui, car en fait, ce qui définit la vie de ces Libanaises, ce sont encore et toujours ces communautés religieuses. Cela va du mariage aux questions d'héritage, en passant par le divorce, la garde des enfants, et des religions souvent patriarcales, où les femmes sont souvent considérées comme inférieures. Et à cela, il faut ajouter les lois de l'État. Par exemple, une maman n'a pas le droit aujourd'hui de donner sa nationalité à son enfant. Et c'est d'ailleurs l'un des grands combats de ces dernières années.
Il y a encore un tutorat extrêmement fort, effectivement. On sait, Nicolas, que ça ne bougera que si les hommes en prennent conscience. Est-ce que les mentalités évoluent ?
Alors, c'est sûr, les choses sont en train de bouger. On assiste toujours à quelques relents machistes en politique, mais la société civile, les médias ont pris le sujet à bras-le-corps. Par exemple, cette semaine, le journal Al-Nahar a publié un numéro consacré 100% aux femmes dans cette révolution. Et il plaçait même en une l'hymne national revisité au féminin. Et ça, Sophie, eh bien, c'est assez inédit ici.
Ouais, ça bouge au Liban et les équilibres politiques et confessionnels rendent la situation très incertaine, on sait. Donc, affaire à suivre. Merci beaucoup, Nicolas Feldman. À bientôt.
Merci, Sophie. Bonne journée à tous.
Changement complet de cadre et d'ambiance. On va aller rencontrer des brasseurs, brasseurs de bière, bien sûr, en Inde. C'est un secteur en plein boom là-bas.
Europe 1, les carnets du monde.
Tous les dimanches de 13h à 14h sur Europe 1, on écoute le monde changer avec Sophie Larmoyer, mais aussi avec les reporters et les correspondants d'Europe 1. Bienvenue si vous venez de nous retrouver à l'instant. Et si vous déjeunez tardivement, il est peut-être encore temps pour vous de savourer une petite mousse. Les carnets vous emmènent dans des brasseries un peu inattendues.
Quand on parle de bière, on pense à Lille, Bruxelles, Munich, bien sûr, avec Oktoberfest, mais beaucoup moins à l'Inde. D'autant que dans beaucoup d'États indiens, l'alcool est taxé, très contrôlé, voire interdit. Pourtant, le pays vit une vraie révolution de la brasserie. Le phénomène est parti de Bangalore, ville souvent présentée comme la Silicon Valley indienne. En 5 ans seulement, 60 brasseries gigantesques ont fait de Bangalore le paradis des amateurs d'India Pale Ale et autres mousses artisanales. Des maîtres brasseurs affluent de Belgique, d'Allemagne ou du Canada dans la capitale technologique indienne pour surfer sur cet Eldorado du houblon. Voici le reportage de Com Bastin à Bangalore à l'occasion de l'Oktoberfest et sous la mousson.
Nous sommes à Ennore, un des nouveaux pôles d'activité et de vie nocturne de la bouillonnante Bangalore. Assis sur une des 2500 chaises de la brasserie Big Brewski, Martin Bernard, un brasseur canadien, présente sa cuvée.
Ben ici, on a une blanche, recette de Belgique, alors orange coriandre, très rafraîchissante, puis c'est la bière préférée des Indiens. Ici, on a une rock beer, un style allemand, du malt fumé à la tourbe. Les clients qui aiment beaucoup le scotch, le whisky, vont l'adorer. Ici, à côté, un cidre de pommes. On le fait avec un concentré, car les pommes, ça pousse surtout au Cachemire. Puis en ce moment, vous savez ce qui se passe au Cachemire.
Comme beaucoup des micro-brasseries de Bangalore, Big Brewski a la folie des grandeurs. Ouverte il y a un an, elle se présente comme la plus grande brasserie artisanale d'Asie.
Sur presque 2 hectares de terrain. On est parti de rien du tout. On a décidé qu'on voulait avoir un effet très jungle et naturel. On a fait une cascade avec un grand bassin d'eau, avec des nénuphars, des pierres. Tout est faux, mais tout est vrai.
Martin fait partie de la nouvelle génération d'entrepreneurs venus du monde entier pour brasser à Bangalore. Parmi eux, on trouve aussi Bénédicte Scholl, un Munichois qui s'occupe des cuvées de 46 Swans. Cette brasserie est née d'une co-entreprise entre Indiens, Allemands et Américains. Et ici, tout a été pensé pour rappeler les célèbres Biergarten, les jardins à bière de la capitale bavaroise.
Hallo, ich heiße Benedikt, bin 24 Jahre alt, komme aus München.
Je m'appelle Benedikt, j'ai 24 ans et je viens de Munich, où j'ai appris à brasser. Ici, nous proposons des bières allemandes, comme la Hefeweizen, une blanche typique de l'Oktoberfest de Munich. La seule différence avec Munich, c'est qu'on peut rester ouvert l'hiver et qu'il y a des palmiers. Et selon les jours, on sert aussi des plats allemands, Sauerbraten, un bœuf aigre doux, des schnitzels ou des saucisses.
Avec son gazon en plastique, ses larges tables en bois et ses guirlandes, ce Biergarten n'a pas poussé là par hasard. Il est installé au cœur d'Electronic City, un des quartiers d'affaires et de technologie de la ville. Parmi les entreprises qui ont leur siège, on trouve la multinationale allemande Siemens, dont les salariés plébiscitent évidemment ce petit bout d'Allemagne sous les tropiques. Alors qu'elle se termine le 6 octobre à Munich, l'Oktoberfest dure à Bangalore jusqu'à la fin du mois. Et sous la mousson tardive, l'Indien Narayan Manapalli organise justement une soirée inspirée des nuits bavaroises.
You have the pride of winning beer games, and are we giving beers?
And when I was living in the US,
avant je travaillais à Portland dans l'Oregon, c'est la mecque de la bière artisanale aux États-Unis. J'ai décidé que je voulais revenir ici pour que les Indiens aussi puissent avoir accès à de super bières.
I used to work with Intel.
Je travaillais dans l'informatique, mais j'ai décidé d'arrêter pour lancer 2 microbrasseries et notre business a complètement explosé. La nouvelle génération raffole des bières brassées. Par exemple, on propose une IPA baptisée Kama Citra. Au total, on produit 40 000 litres par mois qu'on distribue dans 92 bars différents de Bangalore.
Bangalore, la Silicon Valley indienne, attire un grand nombre d'Indiens et d'expatriés ayant vécu dans le monde entier. Une concentration à l'origine de la soif que la ville s'est trouvée pour la bière artisanale. Mais d'autres raisons expliquent la démesure du phénomène, notamment le succès mondial des bières IPA, India Pale Ale, qui trouvent leur origine ici, du temps des colons britanniques. André Leblanc est ancien consultant en bière en Belgique, aujourd'hui installé à Bangalore.
À Bangalore, c'est historique, donc il y avait beaucoup d'Anglais sur place et l'IPA, comme la mode de l'IPA d'aujourd'hui, India Pale Ale, est reliée à Bangalore à ce niveau-là. Il faut dire que la bière anglaise, début du 19e siècle, c'était la Pale Ale. Les militaires qui travaillaient en Inde avaient de la bière importée de l'Angleterre, mais avec le long trajet, il y avait des problèmes, il y avait beaucoup d'oxydation dans la bière était mauvaise. IPA, ils ont créé ça pour ici, parce que les Anglais se sont rendus compte que le houblon préservait la bière et aussi l'assainissait.
Au-delà du lien avec le passé colonial de la ville, des contraintes législatives ont aussi favorisé ce boom des brasseries de Bangalore.
On se rend compte que les taxes sont plus élevées, donc c'est moins cher brasser sa bière dans un établissement que la vendre à des cafés pour qu'ils la servent aux clients, oui. Depuis 2009, la première à Bangalore, il y en a plus de 60 aujourd'hui. Et j'en connais au moins une bonne dizaine encore qui sont en projet.
La législation de l'État de Bangalore impose une superficie minimum de 1000 m² pour tout établissement souhaitant obtenir une licence de brasseur. D'où la taille démesurée des établissements de la ville, dont certains brasseraient d'ailleurs autant d'argent noir que de houblon, murmure un expert sous couvert d'anonymat. Selon les études, le marché de la bière en Inde devrait connaître une croissance de 8 à 10% par an. Le Canadien Martin Bernard s'en frotte les mains.
Comment vous voyez la scène de la bière à Bangalore dans 5 ans?
Probablement 100 microbrasseries. J'espère que... Maintenant j'en ai 3, j'espère que j'en aurai 5. C'est ici qu'il y a le plus de bouleversements, qu'on trouve le plus de bières différentes. Mais d'ici une dizaine d'années, probablement qu'il y aura autour de quoi 1000 microbrasseries en Inde.
Bon, ben, je vous propose de se faire une petite mousse.
Ah oui, s'il vous plaît.
À consommer avec modération, bien entendu. Côme Bastin est en ligne avec nous depuis Bangalore pour quelques précisions. Bonjour Côme.
Bonjour Sophie.
Ce terme de microbrasserie en Inde, j'ai l'impression qu'il ne veut pas exactement dire la même chose qu'en France.
Oui, c'est vrai qu'en France, c'est une petite usine qui produit de la bière et la vend à des bars. Ici, on parle d'établissements qui vendent la bière qu'ils brassent directement sur place. C'est donc à la fois des brasseries, au sens propre du terme, et des bars.
Oui, on retient aussi que leurs tailles n'ont rien à voir avec du micro.
Oui, à Bangalore, de nouveaux quartiers sortent de terre chaque année. Un foncier énorme est disponible pour imaginer des établissements démesurés pour pas très cher. Et puis, il s'agit de contourner la fiscalité élevée sur le marché de l'alcool en Inde. En vendant la bière qu'on a soi-même produite, on évite beaucoup de taxes d'importation.
Avant cette vague de brasserie, comme est-ce que les Indiens buvaient déjà de la bière?
Bien sûr, mais c'était surtout la Kingfisher, une bière blonde industrielle qui inondait tout son continent. Son fondateur, Vijay Mallya, est devenu milliardaire. Il a même lancé une compagnie aérienne au nom de sa marque de bière, qui n'a finalement jamais décollé. Aujourd'hui, il a dû fuir l'Inde suite à des déboires avec l'administration fiscale. À Bangalore, on trouve d'ailleurs un gratte-ciel baptisé Kingfisher Tower, qui a longtemps fait la fierté de la ville. Vijay Mallya s'est fait construire une réplique de la Maison Blanche sur son toit, mais aujourd'hui, ce palais un peu kitsch, perché à 130 mètres de haut, est vide, alors que partout dans la ville s'ouvrent de nouvelles brasseries. Tout un symbole.
Oui, cette manie de se construire des maisons blanches un peu partout. Merci, Côme, pour ce voyage assez inattendu aujourd'hui, dans ce nouveau repère de la bière. Oktoberfest à Bangalore, en Inde, c'est plutôt original. Merci, à bientôt.
À bientôt, Sophie.
Les carnets du monde sur Europe 1.
Il est 13h52, Sophie Larmoyer, une dernière petite vadrouille avant de refermer les carnets. C'est notre petit voyage en Autistan, bien sûr, avec Joseph Chevanec.
Fort de ses nombreux voyages et de sa double casquette, philosophe et autiste Asperger, l'ami Joseph partage avec nous son regard singulier sur le vaste monde. Bonjour Joseph.
Bonjour Sophie, bonjour à tout le monde.
On en a vu beaucoup cette semaine, des têtes de citrouille, des teints blafards, de morts-vivants et autres toiles d'araignées. C'est une ambiance qui vous a inspiré, Joseph.
Oui, le sentiment qui domine dans les boutiques, c'est la peur. Alors c'est un peu par jeu et par intérêt commercial, mais n'importe. Sous d'autres latitudes, la peur, ce sentiment universel à d'autres mobiles. Alors bien sûr, on peut en rire parce que ça paraît parfois déroutant, voire loufoque, mais est-ce qu'on peut vivre sans avoir peur de quelque chose?
Vous avez peur de quoi, vous?
Dans mon enfance, la source première de peur, c'était les agents soviétiques. Difficile de faire la part des choses entre le réel et la parano qui ne manque pas de s'installer chez les dissidents et les réfugiés politiques.
Je fais une petite parenthèse, je rappelle, Joseph, que vos parents étaient dissidents tchécoslovaques, réfugiés en France dans les années 70.
Tout à fait. Et mes parents et les cercles qu'ils fréquentaient scrutaient chaque visage inconnu et analysaient chaque accent suspect, se demandant s'il ne s'agissait pas du tant redouté accent russe.
C'est pas banal, c'est pas courant d'avoir peur des espions russes.
À l'époque, si. Des années plus tard, alors que je croyais tout cela révolu, rebelote. J'habitais alors en Iran. La mère d'une amie de l'époque se faisait beaucoup de soucis pour moi. Elle me demandait sans arrêt d'être prudent à Téhéran, de ne pas sortir à la nuit tombée, d'éviter les ruelles peu fréquentées, etc. Un jour, intrigué, j'avais fini par lui demander pourquoi toutes ces précautions. Et elle de me murmurer une vraie terreur dans la voix. Il y a des agents américains qui pourraient te kidnapper. Ils sont redoutables. Ils attendent dans un coin sombre et hop, te saute dessus et te voilà otage des Américains. J'avais dû faire un effort pour réprimer un éclat de rire. Cela aurait sans doute contrarié mon interlocutrice. Il faut dire qu'elle avait une raison précise de vouloir me protéger. Je l'ignorais encore à ce moment-là, mais elle avait pour projet de me faire épouser sa fille, ce qui en fait devint ma peur à moi et mes femmes et séjours en Iran. Toutefois, je crois que dans la plupart des cas, les peurs des gens ne sont pas politiques. Il s'agit plutôt d'une sorte de crainte presque métaphysique liée à l'environnement naturel.
Quand vous parlez d'environnement naturel, vous ne parlez pas de la peur de l'araignée.
Oh, pire que ça, Sophie. La peur d'être avalée, par exemple, par la forêt, de disparaître dans l'immensité. Durant mes séjours en Sibérie, je m'étais souvent demandé pourquoi les gens ne profitaient pas du cadre naturel super, pourquoi ils ne sortaient jamais de leur ville ou village. En fait, il ne faut pas tenter le diable. L'immensité, c'est le lieu des proscrits, de ceux qui n'ont pas d'avenir en société, des vagabonds, mais aussi naguère les saints ermites. Hein. Mes amis sibériens m'ont beaucoup frustré. Ils ne comprenaient pas mes demandes répétées d'aller dans la nature. Hein. Après plusieurs séjours d'été en Sibérie, je me suis résigné. Hein. Tant que je n'aurai pas d'hélico privé, autant dire jamais, inutile de rêvasser de la nature profonde sibérienne.
Hein. Vous évoquez l'immensité, Joseph. Il y a aussi la mer, cette impression d'infini qui peut être source d'angoisse pour certains. Hein.
Tout à fait, dans les états insulaires et notamment dans le Pacifique, c'est l'immensité bleue de l'océan qui semble angoisser les gens. Qu'on soit à Fidji ou au Tonga, les gens évitent un peu la plage. Hein. C'est un lieu où on ressent ce que ressentait Robinson dans le roman, à savoir la limite de son royaume. Hein. Donc, il y a une sorte de crainte qui est encore avivée par la pensée du réchauffement climatique et la montée des eaux. Hein. Je pense que le silence, l'apparence craintive va déprimer de beaucoup des habitants de cette immensité bleue et liée à ce sentiment face à l'éternité. Hein. Comme on dirait aux Polynésiens des îles Samoa, « Amuile Masina et Alumasaou, bénite soit la lune qui part et revient, parce que les hommes, eux, partent mais ne reviennent pas. Mm. » En ces temps des fêtes des morts, que l'on soit en Europe ou aux Antipodes, en fin de compte, on partage une bien profonde humanité.
C'est vrai. Et merci pour cette sagesse que vous partagez avec nous, Joseph. Rassurez-moi, vous ne voyez plus d'espions partout, c'est fini ça?
Oh non, non, c'est fini.
C'est fini. Merci beaucoup, à dimanche prochain.
Dosuit, Dania.
Merci de nous avoir accompagnés. C'est la fin des Carnets du Monde, une émission que Florence Gimalak m'a aidé à préparer. Merci à elle. Et réalisée par notre très chère Sophie Mallier, à qui on souhaite bon vent, et par Marc Fréjean, qu'on est bien content d'accueillir dans l'équipe. On vous donne rendez-vous dimanche prochain pour de nouvelles aventures et je vous passe le témoin, Nicolas Caro. Qui va-t-on rencontrer dans votre émission littéraire aujourd'hui?
Alors j'ai invité Pierre Assouline, l'un des membres du jury Goncourt, parce que c'est demain, donc on va parler des petites et grandes histoires du Goncourt et puis nous visiterons la bibliothèque d'un autre écrivain, Éric Fotorino.
Ils n'auront pas encore voté?
Ah ben non, c'est demain.
Ah, d'accord. La voix est libre, donc dans quelques minutes. Et c'est un plaisir de l'écouter chaque week-end. Bonne fin de week-end à tous. Portez-vous bien.
Merci Sophie Larmoyer. À dimanche prochain. Et je rappelle, juste après La Voix est libre, Il n'y a pas qu'une vie dans la vie avec Isabelle Morizet, qui reçoit non pas un invité, mais deux invités, deux acteurs qui sont aussi auteurs, scénaristes, metteurs en scène. Il s'agit de Patrick Braoudet et Arthur Juniau pour une pièce, une comédie de Clément Michel et qui a pour titre Père ou Fils.